Entre nous soit dit, une émission proposée par Fabrice Adjadj avec Dominique Pigna. On ne sait plus ce que fut Bergson à la charnière du 19e et du 20e siècle. Un événement, un tournant, une soudaine évasion du bagne matérialiste, pour reprendre une expression de Paul Claudel. Ses cours au Collège de France attirent une foule sans précédent, sa notoriété même franchit l'Atlantique, et lorsqu'il part à l'université de Columbia à New York pour prononcer une conférence, l'hebdomadaire La Vie française titre « Comment nos snobinettes pourront-elles l'an prochain étancher leur soif de métaphysique ?» Il était, dit-on parfois, la première rock star de la discipline philosophique, bien avant Derrida ou Foucault. Mais ça n'est pas qu'un succès populaire. William James, dans une lettre du 4 octobre 1908, écrit à propos de Bergson « C'est un homme modeste, mais quel génie intellectuellement. J'ai la conviction la plus ferme que la théorie qu'il a développée finira par s'imposer et que l'époque que nous vivons sera une sorte de virage dans l'histoire de la philosophie. » Quant à Charles Péguy, il n'hésite pas à dire que Bergson est l'homme qui a réintroduit dans la vie spirituelle dans le monde. Entendez, le monde des sciences. Et dans sa célèbre note sur Bergson et la philosophie bergsonienne de 1914, il écrit « La philosophie bergsonienne n'est point une physique du transfert, une mécanique, une cinématique de la translation, c'est une organique, et même une réorganique, c'est une dynamique. » Et il ajoute avec ferveur « Je vois partout dans Bergson le souci de la considération du réel pur. » C'est pour parler de ce réel pur, c'est pour parler aussi de ce que Péguy appelle l'incorporation, l'incarnation, chez Bergson qui trouvera ses idées à ce sujet, que nous avons invité Dominique Pigna. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Nous allons parler aujourd'hui spécialement de la liberté chez Bergson. Alors, est-ce que c'est le premier des sujets bergsoniens? Est-ce que Bergson est d'abord un penseur de la liberté?
Non, il n'a pas été d'abord un penseur de la liberté, mais il s'est rendu compte que le problème de la liberté tel qu'on le posait traditionnellement était souvent très mal posé, parce qu'on faisait des confusions entre l'espace et le temps.
Alors, il en parle dès sa thèse doctorale, les essais sur les données immédiates.
Exactement. Ce qui est assez impressionnant, c'est que ce chapitre sur la liberté paraît donc dans la thèse de doctorat. Il a 30 ans. Il écrit « Les données immédiates de la conscience ». Il publiera ce texte un petit peu plus tard en y adjoignant un premier chapitre qu'il considère comme un chapitre d'introduction pour mieux comprendre. Mais la thèse, en réalité, c'était deux chapitres. Un chapitre qui porte sur la distinction du temps et de l'espace, et un deuxième chapitre qui parle de la liberté. Ce thème de la liberté, je crois, ça va quand même le poursuivre toute sa vie, et il y reviendra à la fin de sa vie dans un de ses derniers ouvrages qu'on appelle « Les deux sources de la morale et de la religion ». Et là, il reprendra ce chapitre, ce thème de la liberté et de la religion. Mais déjà donc, ce qu'on remarque à la thèse de doctorat, on sent un Bergson, certes jeune, mais quel génie, quelle approche avec une hauteur de vue absolument incroyable. C'est impressionnant de penser qu'on a affaire à une thèse de doctorat, mais avec une telle ampleur.
Alors justement, la pensée de Bergson sur l'espace et le temps et sur la liberté est vécue à son époque comme une libération justement. Alors même s'il ne thématise pas comme telle la libération, en tout cas c'est vécu comme ça, il réintroduit spécialement, pourrait-on dire, le temps. C'est d'abord la base. Alors son reproche, c'est de dire, dans cette période de scientisme, de reprocher aux sciences d'avoir perdu de vue le temps, de l'avoir spatialisé, de l'avoir réduit à de l'espace.
Exactement. Oui, le scientisme a ramené le temps à l'espace, et tout l'effort de Bergson, c'est de montrer que précisément on doit distinguer le temps et l'espace, même si, même si, il faut bien le reconnaître, toujours on lit dans la vie quotidienne les deux. Si je demande à quelqu'un à quelle distance se situe la gare de Fribourg, il pourra me répondre que c'est à 2 km ou c'est à 10 minutes de voiture. Il peut me répondre dans l'espace ou il peut me répondre dans le temps. Et c'est vrai que le temps, on se l'imagine comme une horloge qui tourne, comme un sablier. Et dans toutes ces représentations qu'on se donne, on n'a pas réellement le temps, on a de l'espace.
Oui, on dit que l'avenir est devant nous et que le passé est derrière, par exemple.
Et on représente, tout scientifique représente, enfin j'ai donné moi-même des cours d'histoire, on se met au tableau noir, on trace une ligne, on dit voilà le temps, nous sommes au présent, on fait un trait vertical et puis on est tout content de croire d'avoir représenté. Et Bergson nous montre, avec génie, que le temps et l'espace sont radicalement différents.
Alors quelles sont les différences majeures?
Voilà, peut-être mettons en évidence quelques différences. Alors la première, qui est la plus importante, c'est que l'espace, je peux aller dans une direction et je peux revenir, je peux reparcourir le chemin que j'ai parcouru. Je vais jusqu'à la salle de cours et j'y reviens. Mais le temps, je ne peux jamais le revivre. Je ne peux jamais me retrouver exactement dans la situation dans laquelle j'étais lorsque j'ai pris, par exemple, une décision.
Cette irréversibilité du temps, on éprouve l'incapacité de revenir en arrière, précisément souvent à partir d'un, par exemple, je pense à un accident qui se serait opéré par inadvertance, et on se dit mais il lui suffit que, et on cherche presque dans l'espace le moyen de remonter le temps, et c'est là qu'on voit que nos imageries qui spatialisent le temps sont erronées dans ce drame.
Oui, parce que, et puis avec l'âge qui avance, alors on est encore plus sensible à la fuite du temps. Et puis, il y a une deuxième différence qui est aussi fondamentale, c'est que le temps, il est vécu et il est plutôt du côté du sujet. Je ne veux pas dire par là qu'il est subjectif au sens d'arbitraire, mais il relève de la qualité de l'attention. Je peux mesurer 3 minutes, je peux mesurer l'espace spatial, l'espace que prendrait 5 minutes, mais les 5 minutes peuvent avoir pour moi une longueur incroyable si je suis un cours qui est peu passionnant, et les 5 minutes peuvent paraître vraiment extrêmement courts si je suis extrêmement intéressé. Je prends souvent l'exemple, les 5 minutes qui précèdent la rencontre avec la bien-aimée sont 5 minutes qui n'en finissent plus, les 5 minutes qui suivent sont des 5 minutes qui ont passé comme comme la rose éphémère. Hein.
C'est ce qu'éprouvent aussi les supporters de football. Alors quand leur équipe gagne, ils ont hâte que ça s'arrête, parce que vous voyez, si l'adverse peut égaliser. Et en revanche, quand elle perd, les dernières minutes sont toujours trop courtes. Mais alors, justement, donc, irréversibilité du temps, subjectivité du temps, de telle sorte que finalement, déjà, parler du temps, c'est forcément parler de la conscience, c'est réintroduire l'âme. Je pense à la définition que donnait saint Augustin du temps, justement. Oui. C'est une distensio animi, hein, oui. Donc c'est une distension de l'âme. Ça veut dire que finalement, réintroduire le temps par rapport à l'espace, c'est une manière de sortir de l'objectivisme scientifique et réintroduire justement, comme disait Peggy, finalement le spirituel dans le monde.
C'est pas pour rien qu'il y a une œuvre de Bergson qui s'appelle l'énergie spirituelle, et ça me met bien en évidence. C'est que libérer le temps de sa spatialisation ou de la représentation spatiale qu'on en donne, c'est permettre à l'âme de se retrouver et de se distancer, j'allais dire, de cette liaison presque inévitable du temps et de l'espace. Il y a une phrase de Bergson où il dit « Il faut par un vigoureux effort d'abstraction libérer le moi de son lien avec l'extérieur pour retrouver ce moi fondamental. » C'est retrouver la conscience de soi qui a aussi cette particularité d'être, et ça c'est aussi une caractéristique du temps qui est indivisible. Le temps, on ne peut pas le mettre en morceaux. Ce qu'on met en morceaux, ce qu'on divise, c'est la représentation spatiale du temps.
Oui, c'est-à-dire que l'unité, on pourrait dire élémentaire du temps, chez Bergson, n'est pas l'instant, qui est une sorte de point sans dimension, justement sur un segment, mais c'est ce qu'il appelle la durée, et la durée est une attention dans un présent, mais qui porte en elle-même une mémoire et une tension vers l'avenir. On retrouve des
exactement.
Thèses de du livre 11 de Saint-Augustin.
Exactement, oui. Chez Saint-Augustin, Saint-Augustin met bien en évidence que le temps, dès qu'on essaye de comprendre ce qu'est le temps, si on ne me demande pas ce qu'est le temps, je sais très bien ce qu'il est, mais lorsqu'on me demande de dire ce qu'il est, je ne sais plus ce qu'il est. Cette phrase qui est assez célèbre, et Saint-Augustin montre bien que le temps, c'est la manière de vivre le présent, l'attention que j'ai sur moi-même, attendere, la présence à moi-même qui peut se dilater vers le futur dans l'attente et se dilater vers le passé dans le souvenir et la mémoire. Mais c'est cette dilatation de l'âme à elle-même, cette dilatation de l'âme sur elle-même et dans elle-même qui crée cette saisie de la durée. La durée, je la perçois intérieurement et personne ne peut la percevoir à ma place. Je suis moi seul. Le critère, dira-t-il, de la qualité du temps. Avec le temps, on est dans le monde du qualitatif, et avec l'espace, on est dans le monde du quantitatif. Avec la durée, je donne à mon attention une qualité qui ne sera jamais adéquatement traduite par la quantité. C'est le premier chapitre qu'il ajoute aux données immédiates de la conscience, cette distinction entre la qualité et la quantité. C'est fou combien on a une peine folle de laisser la qualité s'exprimer comme qualité. Tout sentiment, tout désir, on nous demande toujours de mettre des coefficients.
Alors c'est peut-être ça que les gens ont perçu comme une libération à une époque où le scientisme explosait, où les statistiques aussi explosaient, et c'est-à-dire ce retour de la qualité dans l'empire de la quantité qui était en train de se mettre en place. Mais je pense aussi, par rapport à cette question du temps, à la question du sujet, c'est-à-dire que le sujet n'est pas posé comme un simple individu qui vivrait dans l'instantanéité de ses choix. Il porte finalement toujours une mémoire, un projet, et il est pris dans une durée qui est aussi une forme de patience aussi. Bergson écrit aussi sur ce sujet-là, et on pourrait dire ce que nous propose le monde aujourd'hui, aussi bien la conception du sujet que de la liberté, c'est quelque chose qui est posé dans la pure instantanéité, un sujet sans histoire, sans véritable avenir, et qui est de plus en plus à se tourner vers des gadgets multimédiatiques qui sont là pour assurer l'immédiateté, l'instantanéité de ses choix.
Oui, ça c'est le morcellement. C'est, si l'on veut, la divisibilité qu'on applique naturellement à l'espace, on a tendance à l'appliquer au temps, et ça donne cette espèce de liberté qui croit se jouer dans l'instant, comme vous le dites là sur les gadgets.
On pourrait dire même qu'une bonne machine, c'est pas celle qui nous ferait aller plus vite et qui nous permettrait d'avoir des résultats instantanés, mais au contraire, celle qui nous permettrait d'entrer davantage dans la durée et dans la patience. À la limite, elle serait plus humaine finalement.
Je pense à cette phrase de Schelling qui dit que la philosophie, c'est savoir mettre les freins à nos désirs qui sont en général pas le désir, c'est pas l'idée du désir, mais nous allons toujours trop vite et le propre de la philosophie, ça serait mettre un frein pour essayer de retrouver cette durée à côté de laquelle très souvent on passe.
Oui. Vous avez mentionné l'irréversibilité, la subjectivité, l'indivisibilité du temps, mais il y a aussi, quant au futur, une imprévisibilité du temps que souligne Bergson, parce que finalement, un des aspects dont on va reparler du déterminisme, c'est de dire que on peut prévoir. Et en fait, quand on dit que tout est prévisible, déjà, on est dans l'espace finalement.
Exactement. Et c'est là qu'on peut faire le lien. Alors, vous soulevez la question avec le problème de la liberté. L'idée centrale de Bergson, c'est de montrer que dès qu'on aborde le problème de la liberté, on est pris entre deux écueils. Un des écueils serait le déterminisme, qu'il double entre le déterminisme physique et le déterminisme psychologique, d'une part, et d'autre part, l'autre écueil, qui serait la liberté d'indifférence, où la liberté serait le choix créateur, libre, total, à l'instant. Et toute l'analyse qu'il fait dans les données immédiates de la conscience, c'est une critique et du déterminisme, qu'il dit être une erreur, et de ceux qui défendent mal la liberté en pensant que la liberté suppose l'indifférence dans le choix. Il a une formule qui résume bien, il parle de l'erreur du déterminisme et de l'illusion de ses adversaires. Donc, tout le troisième chapitre qui est consacré à la liberté s'articule vraiment sur la destruction ou la déconstruction, il faudrait plutôt parler comme ça, la déconstruction du déterminisme et la mise en évidence de l'illusion qu'il y a dans ceux qui veulent défendre la liberté en supposant que la liberté, ça a simplement été un choix gratuit qui a été posé à un moment donné de l'existence.
Mais alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'avant de se poser au niveau, je dirais, anthropologique ou moral, la question de la liberté, Bergson la pose dans le domaine qu'on pourrait appeler ontologique ou épistémologique, c'est-à-dire qu'il il laisse entendre que déjà le déterminisme prétend à une sorte de prévisibilité même dans les phénomènes à la limite naturelle, parce qu'il va critiquer même l'idée d'une anticipation totale par rapport aux phénomènes naturels. Mais le prévisible, c'est déjà voir ce qu'on ne voit pas encore. Donc, ce qu'on voit, ce qui est sous la vue, c'est précisément l'espace, c'est pas l'avenir. Donc, il y a dans l'avenir, conçu comme tel, et pas simplement par rapport au sujet humain, je dirais, hein, de manière non anthropologique, mais déjà épistémologique, dans l'avenir, il y a déjà une charge d'imprévisibilité et donc d'inanticipable, contrairement à ce que prétendent les sciences.
Exactement. Alors il fait bien la distinction, ça, je pense que c'est très juste. C'est vrai que si je lance une voiture à telle vitesse sur une route orientée de telle façon, je peux très bien savoir à quel moment et comment se fera l'impact de cette voiture sur l'arbre. Où je prends souvent l'image, je peux prévoir où je serai spatialement dans tel temps, je ne peux pas savoir dans quel état d'esprit je serai à ce moment-là. Ça, c'est pas la même chose. L'état d'esprit dans lequel je me trouverai dans 5 minutes, c'est pas la même chose que l'espace que je sais que je peux parcourir en 5 minutes. Alors, la critique du déterminisme, elle est extrêmement intéressante parce que Bergson montre que derrière le déterminisme, il y a cette phrase, cette affirmation que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Alors il dit, il faut déconstruire cette idée des mêmes causes qui produisent les mêmes effets. En effet, dans cette formule, les mêmes causes produisent les mêmes effets, il y a deux notions sous-jacentes. Les mêmes, ça veut dire qu'il y a une répétition, produisent les mêmes effets, et on prétend qu'il y a un phénomène qui va suivre le phénomène premier. Donc, il y a une idée de répétition et une idée de succession. Or, si l'on réfléchit, la répétition, ça joue si je peux retrouver les conditions parfaitement identiques. Or, quand je réfléchis sur mon passé, jamais je ne me trouve dans deux situations parfaitement identiques. Donc, parler de répétition, ça convient si je traite du monde extérieur, ça convient si je traite de l'espace, ça ne convient pas si je traite de mes états d'âme, de mes désirs, des peurs, des craintes entre lesquelles je peux balancer. Par contre, l'idée de succession, c'est assez intéressant cette histoire, c'est que la succession, j'en ai l'expérience intérieure, mais il n'y a pas de succession dans l'espace. Dans l'espace, il n'y a que de la simultanéité. Donc dire les mêmes causes produisent les mêmes effets, c'est confondre la répétition qui finalement convient dans le monde de l'espace avec la succession qui, elle, concerne plutôt, qui concerne seulement la durée. On voit bien dans cet exemple comment le déterminisme, finalement, c'est une confusion entre ce qui est valable, ce qui pourrait jouer dans le domaine de la conscience, avec quelque chose qui relève du domaine de l'espace. C'est l'exemple typique de la confusion du temps et de l'espace.
Mais en même temps, ça ne veut pas dire que ça ne concerne que le sujet humain, parce qu'on pourrait dire que ça concerne tous les phénomènes, que les sciences, de par leur méthodologie même, ne s'intéressent aux phénomènes qu'en tant qu'ils sont expérimentables, donc reproductibles. Donc justement, elles vont mettre de côté tout ce qu'il peut y avoir de contingence. Hein, il y a une manière de faire abstraction dans le protocole expérimental de la contingence, donc de faire abstraction de la succession, finalement, hein, de la temporalité, parce qu'il faut que le même puisse advenir. Enfin, en tout cas, on essaye d'éliminer tout ce qui pourrait empêcher les mêmes causes et les mêmes effets.
Oui.
Donc, le phénomène est vu en tant qu'il est reproductible, mais n'importe quel phénomène a toujours des aspects qui sont non reproductibles.
Oui. On pourrait dire que derrière la science, il y a quand même cette intuition de Descartes que le monde se ramène à de l'espace, à une chose
à une
étendue,
mécanique
flexible et muable. Alors, une fois qu'on a ramené la réalité à cette dimension d'être seulement une réalité, comme Bergson le dit, une réalité homogène qui n'a aucune qualité, alors oui, c'est vrai que la science peut traiter de ça. Mais
Oui, parce qu'il y a une efficacité quand même des sciences à ne voir que le reproductible, finalement.
L'efficacité, c'est qu'en voyant que ce qui est reproductible, on peut développer toute la technique, qui est comme le résultat visible des recherches scientifiques. Ce que le public reçoit des découvertes scientifiques, c'est les améliorations techniques qui reviennent précisément du fait qu'on a pu répéter le phénomène.
Mais en même temps, et c'est ce que montre Jean-Luc Marion, qui est en cela disciple de Bergson, il montre que tout ce domaine technoscientifique, enfin, tout ce domaine de la technologie, finalement ne s'attachant qu'au reproductible et oubliant le contingent, est persuadé d'avoir saisi tout le réel par ses anticipations, par ses planifications, mais que le contingent lui revient sous forme de crise, de crack boursier, de crash d'avion ou même de déchets. C'est-à-dire vraiment, il voit dans la crise écologique justement le fait qu'on n'a pas voulu reconnaître la matière comme lieu de la contingence et le temps finalement comme ce qui n'est jamais absolument reproductible, comme lieu de l'irréversible et de l'imprévisible.
Exactement. L'irréversible et l'imprévisible. Et c'est fou combien dans le déterminisme, on imagine la thèse du déterminisme qui prétend qu'on peut prévoir l'action, la décision que prendra quelqu'un. Bergson prend une très jolie image pour ça. Est-ce qu'on peut imaginer que je peux maintenant savoir quelle sera la décision que prendra Pierre, n'importe quel individu, dans 5 jours, voire dans 10 ans. Alors le déterministe prétend que si on connaît tous les antécédents de la décision, eh bien la décision, elle va être la conséquence inévitable, infaillible, comme il dit, de ses antécédents. Et Bergson montre qu'il y a finalement deux façons de connaître les antécédents d'une décision. Alors il y a une façon dynamique et une façon statique. Une façon dynamique de connaître les antécédents, c'est connaître chaque élément qui a précédé la décision, chaque hésitation, mais dans son intensité. Et l'intensité d'un sentiment, d'une hésitation que j'ai, pour en mesurer vraiment la valeur de cette intensité, je dois la vivre. Donc pour connaître vraiment, réellement les antécédents, il faudrait que je sois dans la situation de celui qui décide. Et si je prétends connaître les antécédents d'une autre façon, c'est-à-dire non pas dynamique, non pas en les vivant, mais de l'extérieur, à ce moment-là, je ne connais pas vraiment les antécédents, je connais les antécédents à la lumière de la décision finale. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je prétends pouvoir prévoir la décision que prendra Pierre dans quelques années, finalement, ce n'est pas une prévision. Si je connais tous les antécédents, je suis dans la situation même de Pierre qui va prendre la décision. Autrement, c'est pas...
Ça suppose donc une sorte de... parce que qu'est-ce qui fait la distinction justement entre ce déterminisme, le déterminisme physique et le déterminisme psychologique ? Est-ce que c'est justement que déjà j'ai anticipé aussi sur tous les événements qui pourraient arriver à Pierre ? Je suis déjà après, quoi.
Alors, le déterminisme physique, ça consiste à dire que c'est le cerveau qui agit sur mes décisions, l'esprit. C'est comme si l'esprit était entièrement déterminé par la matière. Et le déterminisme psychologique, qui est plus, je pense, pertinent ici pour Bergson, c'est de prétendre que les décisions que l'on prend sont entièrement explicables ou sont les effets de ce que j'ai vécu avant. Alors on s'imagine souvent qu'avant une décision, j'ai hésité entre deux voies, entre deux chemins, et puis j'ai imaginé, j'avais envie de faire ceci, mais en même temps après j'ai eu peur qu'en faisant cela, alors il y aurait telle autre conséquence. Je suis revenu dans la première hésitation, et puis on s'imagine qu'on a comme ça hésité et balancé entre deux voies ou deux chemins. Et Bergson essaye de nous expliquer qu'on n'est pas devant deux voies toutes tracées, malgré, j'allais dire, le vocabulaire qu'on utilise. On fait souvent appel au vocabulaire spatial quand on parle de la liberté. On dit qu'il s'est trouvé devant un choix entre deux chemins, il cherchait sa voie, il a trouvé sa voie. Employer ces expressions, c'est imaginer que la personne s'est trouvée devant deux chemins.
L'espace et la quantité, parce qu'on peut dire qu'il a pesé le pour et le contre, et finalement c'est ce qui a eu le poids quantitatif le plus grand qu'il a emporté, c'est ça ?
C'est comme ça souvent qu'on se représente la liberté, comme un combat de force, d'inégale valeur. Alors le désir l'a emporté sur la crainte des conséquences néfastes de la... Et puis comme le désir l'a emporté, alors il a décidé ceci. Et ce que Bergson montre, c'est que dans l'hésitation, quand je reviens, j'hésite entre deux chemins A et B. Alors je vois le chemin, si j'utilise cette formule. Je vois le chemin A, les avantages. Après, j'envisage le chemin B et je reviens au chemin A. Et bien, quand je reviens à cette possibilité d'agir dans une direction, ce n'est déjà plus la même chose que lorsque pour la première fois
j'ai
considéré le chemin.
C'est-à-dire qu'il donne vraiment à la succession du temps un poids et donc une quelque chose qui interagit sans cesse finalement.
Mais oui, le désir que j'ai de voir une personne m'habite pendant un moment et après tout d'un coup je vois les risques qu'il y a à rencontrer cette personne et je me reviens à me dire « Ah non, mais je vais quand même la rencontrer ». Mais la deuxième fois où je me dis « Je vais quand même rencontrer cette personne », ce n'est plus du tout la même chose que la première fois. Le moi s'enrichit, on n'est non pas dans une simultanéité de situations, on est dans une succession et dans une fusion des sentiments. Ça, c'est tellement juste. Hein. La durée fait que jamais, comme je le disais tout à l'heure, jamais on ne revit deux fois le même sentiment.
Mais finalement, cette critique du déterminisme physique et psychologique, c'est à la fois c'est la critique d'une neuroscience qui prétendrait expliquer tout de la conscience et de l'homme à partir du cerveau, ou encore c'est la critique, donc anticipée bien sûr, de la possibilité d'une fabrication d'intelligence artificielle.
Oui, en tout cas, donc pour le déterminisme physique auquel vous faites allusion, alors on voit bien à quoi ça correspond, hein, cette idée que les moindres décisions que je prends, les moindres émotions que je vis, ne sont que l'effet strict de mouvements moléculaires. Alors Bergson reconnaît qu'il y a un parallélisme entre les phénomènes physiques et les phénomènes psychiques. Il prend l'exemple de l'audition. Il est clair qu'à la quantité de décibels, qui est quelque chose de matériel et de quantifiable, correspond à moi une certaine intensité de sensation. C'est vrai que la sensation, comme phénomène psychique, est liée à un phénomène d'ordre physique. Mais qu'il y ait un parallélisme très visible dans la sensation, ça ne permet pas de conclure, dit Bergson, qu'il y a une relation de cause à effet et pour la totalité des phénomènes. Si on peut considérer ce parallélisme dans quelques domaines précis, on ne peut pas de là conclure ni commettre une extrapolation et de dire que c'est valable pour tout, ni imaginer que le parallélisme soit une relation de cause à effet. Il y a là les deux confusions auxquelles on succombe facilement.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a dans toute, on pourrait dire, activité de la conscience, il y a un corrélat cérébral, mais ce corrélat n'implique pas nécessairement une causalité du cerveau sur la conscience.
Oui. Alors, il a des belles images. Dans un autre texte, il prend l'image de la conscience liée au cerveau comme le vêtement qui serait suspendu à un clou. Alors, il dit, c'est vrai que la marque du vêtement sera bien lié à la marque du clou auquel le vêtement est suspendu. Cela ne veut quand même pas dire que le vêtement est le produit du clou, même s'il y a un parallélisme. Du parallélisme, on a vite fait de passer à la causalité.
Alors comment est-ce que Bergson critique cette fausse liberté aussi, et notamment celle, parce que il y a d'un côté la critique du déterminisme, mais aussi la liberté pensée simplement comme je pèse le pour et le contre, où j'aurai une sorte d'indifférence totale, mais en même temps cette indifférence totale justement n'a plus rien à voir avec la liberté, puisque ce serait aussi la paralysie du choix. On pourrait dire que pour Bergson, si on pense la liberté en termes de simple délibération, finalement la délibération tourne sans fin. Est-ce qu'il n'est pas celui qui pense justement une sorte de saut ontologique entre le moment où l'on délibère et le moment de la décision?
Oui, il met bien en évidence combien ceux qui défendent la liberté, en général, la défendent mal, parce qu'ils imaginent cette liberté dans l'indifférence. On connaît tous le fameux épisode de l'âne de Buridan, qui se serait trouvé entre deux tas de foin d'égale qualité, et comme il n'y avait rien qui le poussait plus sur le tas de droite de foin ou le tas de foin de gauche, eh bien, il a basculé sa tête de gauche à droite indéfiniment.
Et il est mort de faim.
Et il est mort de faim comme un âne.
Entre deux bottes de foin.
Et alors, Bergson dit, il est vrai que quand on a parcouru le chemin, lorsqu'on a pris une décision, alors il est facile de remonter en arrière dans le temps et d'imaginer quels sont les facteurs qui m'ont amené à prendre la décision. C'est toujours assez intéressant d'entendre les personnes quand vous leur posez une question. Comment ça se fait que tu as pris telle décision? Ou si quelqu'un vous explique, quand on demande à quelqu'un, mais d'où vient ta vocation? Comment ça se fait que tu es devenu ceci? Comment ça se fait que tu as décidé ceci ou cela? Eh bien, inévitablement, cette personne, elle va mettre en évidence un certain nombre de faits. Alors oui, je me suis dirigé vers cette décision parce que j'ai rencontré telle personne, j'ai lu tel article, et puis j'ai eu une rencontre à un moment donné qui m'a un petit peu bouleversé, et tous ces événements ont fait qu'à un moment donné, j'ai pris cette décision. Or en fait, dit Bergson, ce que je mets en évidence comme éléments qui expliquent la décision, ne sont des éléments que je peux mettre en évidence que lorsque je sais
que
la décision est prise.
C'est une reconstruction a posteriori,
c'est
finalement.
C'est toujours une reconstruction a priori. Il a une phrase qui est magnifique. Il dit « Les signes avant-coureurs d'une décision ne sont des signes avant-coureurs que pour autant que la course soit terminée. Ce n'est que lorsque j'ai décidé telle chose » que je peux me dire que tel événement que j'ai vécu a eu l'importance. Au moment où je l'ai vécu, je ne lui ai pas donné l'importance que je lui donne après la décision. Après, au moment où je l'ai vécu, il s'est fondu, comme je disais tout à l'heure, dans une immense quantité d'événements qui font ma durée, et c'est lorsque la décision est prise que je reviens en arrière et que je remets en évidence tel événement, tel autre, comme ce qui aurait été les conditions. On s'imagine la décision comme un point, il prend cette image, un point O sur un chemin, sur un tracé, entre deux chemins X et Y. Eh bien Bergson nous dit, il n'y a pas de point d'indifférence entre X et Y, il n'y a même pas de chemin X et de chemin Y. Il y a le moi qui hésite, qui balance, qui passe d'un élément à un autre point de vue sur la décision qu'il faut prendre, et qui, à un moment donné, dans cette évolution, va prendre la décision qui lui semble s'imposer. Mais il n'y a jamais, et ça, mon Dieu, combien il a raison, il n'y a jamais l'indifférence. On n'est jamais entre deux chemins tracés à l'avance. Et là, je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse dans les décisions que les gens prennent, en s'imaginant qu'il y a des voies déjà tracées d'avance et qu'il faudrait obéir à des voies. Il n'y a pas de voie tracée d'avance. La voie, je la crée au moment où je prends la décision. La liberté, c'est cette possibilité d'avancer sur un chemin qui n'est précisément jamais tout tracé. Il n'est pas tracé à l'avance. C'est moi qui vais le dessiner, qui vais comme un peintre qui lance sur son tableau un geste et qui va faire que l'acte que je vais poser sera l'expression de ce que je suis.
Alors cette illusion rétrospective nous laisse entendre que presque que l'idée qu'il y a eu des étapes et même à la limite une délibération qu'on pourrait complètement expliciter ne serait qu'une reconstruction a posteriori, mais alors on est là face quand même à quelque chose qui est très paradoxal, qui est presque de dire la liberté, c'est peut-être moins le libre arbitre qu'une sorte de spontanéité. Et alors comment est-ce qu'on ne retomberait pas dans l'idée d'un déterminisme physique, une sorte d'épanouissement spontané de l'être ?
Vous mettez le doigt sur la difficulté de cette pensée de Bergson. Il est génial dans la critique du déterminisme et de l'illusion du libre-arbitre. Tout ça, c'est pour mettre en évidence quoi ? Alors, c'est pour mettre en évidence une certaine conception qu'il a de la liberté, qui me semble très juste, mais à laquelle peut-être il faut ajouter peut-être quelques bémols, qui me semble très juste. Qu'est-ce que pour lui un acte libre ? La décision libre est une décision qui émane du moi tout entier, et qui n'émane que de ce moi profond, et qui a, avec l'acte qu'il suit, la ressemblance qu'il y aurait entre l'artiste et l'œuvre. Il y a un passage qui résume très bien cela, si je retrouve.
Le passage entre l'artiste et l'œuvre, c'est-à-dire oui. que l'acte porte forcément l'empreinte de la personne elle-même. C'est oui. une expression du moi.
Exactement. Il a cette phrase, hein. Nous sommes libres quand nos actes émanent de notre personnalité entière. Je crois que le mot entier est caractéristique. Quand ils l'expriment, quand ils ont avec elle, cette indéfinissable ressemblance qu'on trouve parfois entre l'œuvre et l'artiste. Il y a quelque chose de juste là. Quand on a pris vraiment une décision dans laquelle on s'est engagé.
Tout entier.
Tout voilà, entier. Eh bien, on a vraiment l'impression que la décision a mûri comme le fruit mûri de l'arbre. Et c'est une autre image qu'il prend. Mmh. Il y a deux images auxquelles...
Des images toujours organiques, comme dirait justement Peggy, c'est-à-dire cette organicité toujours des images du vivant.
Oui, soit l'image de l'arbre qui produit des fruits, soit l'image de l'artiste qui produit l'œuvre. Alors, ça, je crois que c'est une intuition très juste, c'est que l'acte posé librement, c'est l'acte dans lequel je me retrouve, c'est l'acte que j'ai épousé, c'est l'acte qui est mien, c'est l'acte qui serait comme ma moitié. Et j'aime assez mettre en évidence la relation qu'il y a entre la liberté et la responsabilité. On répond seulement des actes dont j'ai été moi-même la cause. Autrement, il n'y a pas de responsabilité. La responsabilité, ça découle de la liberté. Mais dans le terme responsabilité, il y a le terme répondre, et derrière répondre, il y a le terme épouser. Vraiment.
Une sponsalité
de l'action, de la décision.
Dire je serai cela, en fait, hein, c'est ça, décider quelque chose, c'est dire je serai cela.
Mais alors, Bergson reconnaît qu'on peut passer peut-être sa vie entière comme des automates conscients sans avoir vraiment posé des actes libres.
Voilà.
Parce que c'est pas dans la vie quotidienne, j'allais dire, métro, boulot, dodo, où se manifeste particulièrement la liberté.
Et c'est pour ça qu'il peut y avoir une intelligence artificielle qui simule finalement certains actes qui apparaissent comme humains, mais qui sont en fait les actes de personnes qui vivent déjà comme des automates, au fond.
Et qui n'expriment pas leur moi profond, puisque là, précisément, si on était dans ces automates ou dans ces machines, on serait de nouveau dans le monde du quantitatif et du spatial, et on passerait à côté de la durée vécue.
Mais y a, je voudrais revenir à deux paradoxes. Le premier, ce serait de dire, en gros, décider quelque chose, c'est y adhérer entièrement avec tout son être. Et dès lors, le sujet de la décision ne peut pas être exactement le sujet de la délibération. Parce que le sujet de la délibération, c'est précisément celui qui est désengagé, qui est, on pourrait dire, apaiser les choses, le pour et le contre, de l'extérieur. Donc, il doit être, c'est ça le problème de la liberté, c'est-à-dire on doit être à la fois désengagé pour s'engager. Ouais. Et c'est ce moment-là où Bergson va privilégier finalement cette dimension de la décision et insister sur son caractère de déploiement vital finalement.
Oui. Déploiement vital, organicité, le fruit qui émane de l'arbre. Je crois que le langage auquel il se réfère toujours, c'est ce langage organique dont vous avez parlé, mais ce langage de l'émanation. Alors c'est très riche, c'est très beau. Il y a peut-être juste quelque chose qui est gênant, c'est que on a l'impression que il n'y a pas vraiment le choix. La liberté est plus dans la spontanéité créatrice que dans un choix des valeurs ou des moyens. Il y a une chose qui m'a beaucoup étonné à la lecture de ce texte, c'est que finalement, il y a 150 pages qui sont consacrées à la liberté, et il n'y a pas une fois le mot valeur ou le mot bien, mal qui apparaît. Alors on est dans l'éthique, traiter de la liberté, c'est d'un certain côté quand même être au cœur de l'éthique. Qui dit éthique dit distinction de valeurs, morale, bien, mal. Et ça n'apparaît pas. On a l'impression que la liberté, puisqu'elle doit être l'expression de mon moi, toute la question revient à savoir quel est ce moi profond auquel il fait référence.
Mais en même temps, est-ce qu'il n'y aurait pas une contradiction? Parce que, d'une certaine façon, si on est dans la logique de l'émanation, de l'expression, alors on est dans une dimension d'immanence. C'est-à-dire l'acte libre ne serait qu'un développement de mon être et il n'y aurait plus événement. Or, l'événement, c'est aussi, justement, emblématique du temps.
Oui, j'ai l'impression que l'analyse que Bergson fait de la liberté le fait osciller entre deux images, j'ai pris tout à l'heure, l'image de l'arbre et l'image de l'artiste. Et dans ces deux images, j'ai l'impression qu'on est soit en dessous, soit en dessus de la liberté humaine. L'image de l'arbre, c'est du végétal, mais ce n'est pas la conscience humaine. Et chez l'artiste, la liberté, c'est vrai qu'un artiste qui est arrivé au sommet de son travail, il a acquis la liberté intérieure, il a acquis la liberté. Un musicien, quand il joue, il ne faut pas qu'on sente le travail. Il faut qu'on ait l'impression qu'il improvise, alors que derrière cette soi-disant ou apparente improvisation, il y a des heures et des heures et des heures de travail. Moi, il me semble qu'il y a une idée chez Bergson de spontanéité créatrice à laquelle on devrait adhérer, à laquelle on devrait accéder. Mais cette spontanéité créatrice, elle semble être donnée si j'arrive à me libérer de l'espace. Alors que la spontanéité créatrice, pour l'homme et chez l'artiste, elle se conquiert. À la place d'avoir une spontanéité, il me semble que la gêne que je ressens à la lecture de Bergson, j'ai l'impression que ce qu'il appelle liberté, spontanéité créatrice, elle est donnée si elle est divine, chez Dieu, mais chez l'homme, elle n'est pas donnée, elle doit se conquérir. Pour que l'artiste, j'allais dire, c'est comme si...
La spontanéité serait ce qui vient à la fin de toute une démarche, même à la fois rationnelle et volontaire.
Exactement. Et arriver à avoir cette liberté de l'artiste, comme pour le saint dans le problème éthique, il faut savoir danser sa vie, danser ses vertus. Si derrière l'exercice de ses vertus, on sent la transpiration de l'effort, c'est quand même pas, on n'est pas à la sainteté là. Hein. La sainteté, c'est déjà Aristote qui disait, hein, la personne qui est modérée, c'est la personne qui a du plaisir à être modérée. Si on sent l'effort qu'elle doit faire pour être modérée, on a l'impression que ça peine encore.
Oui, qu'elle est encore en chemin vers la modération, mais elle n'a pas encore acquis la vertu. Mais Kant disait quelque chose d'analogue. Il disait qu'une bonne volonté qui serait entièrement tournée vers le bien sans qu'elle n'éprouve une contrainte ou un effort, alors inversement, ce serait justement une bonne volonté qui n'est pas soumise à la morale ou qui est au-delà de la morale. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas chez Bergson finalement une pensée de la liberté qui serait prise à l'intérieur de la morale, mais qui dépasse la morale, parce que justement ce qu'il cherche, c'est cette sorte de bonne volonté pour qui le bien serait parfaitement immanent à son être ou à sa nature.
Oui, oui. Ce moi profond qui devrait s'exprimer dans la décision libre, qu'est-ce? C'est ça la question qu'on doit se poser. On a l'impression chez Bergson que C'est l'élan vital, on a l'impression. Mais que...
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, je voudrais prendre une autre image, parce qu'on a pris des images justement où, d'êtres qui sont seuls, c'est-à-dire l'arbre qui donne son fruit, l'artiste qui produit son œuvre, mais est-ce que dans le cas par exemple de la rencontre amoureuse, il y va à la fois... on pourrait dire de ce qui nous apparaît comme la plus grande liberté, ça y est, je te vois, je te choisis, et en même temps d'une spontanéité, voire même d'une passivité absolue, puisque c'est voyant l'autre, je ne peux pas ne pas le choisir. Et alors, dans la dimension, on avait parlé de cette dimension sponsale ou nuptiale, mais justement là, je consens et je vais dire oui au mariage, mais en même temps, cet acte de liberté qui est vraiment assez emblématique, hein, le oui nuptial, est en même temps lié à quelque chose qui est le fond de la spontanéité de mon être, une attirance, un désir que je n'ai pas comme tel choisi. Est-ce que finalement, la liberté chez Bergson, c'est celle aussi d'un consentement ?
Consentement, oui. La question, c'est à quoi je consens ? Alors, on a l'impression que derrière ce moi profond auquel je consens, il y a ce qu'il appelle l'élan créateur, l'énergie vitale, qu'à la fin de sa vie, il appellera Dieu. Finalement, dans ce chapitre sur les données immédiates de la conscience, on a déjà un petit peu la préfiguration de ce qu'il développera dans les deux sources de la morale et de la religion, c'est-à-dire son dernier ouvrage, où il montrera que le vrai mystique, c'est celui qui est capable de coïncider avec l'élan intérieur qu'il appelle être précisément Dieu. Donc, c'est comme s'il y avait chez l'homme une liberté total, dans la mesure où il est capable de rentrer en consonance avec le moi le plus profond en lui, et ce moi le plus profond serait peut-être la présence divine en nous.
Alors justement, en 1937, Bergson écrit ces quelques lignes bouleversantes, hein, « Mes réflexions m'ont amené de plus en plus près du catholicisme, où je vois l'achèvement complet du judaïsme. Je me serais converti si je n'avais vu se préparer depuis des années la formidable vague d'antisémitisme qui va déferler sur le monde. » En 37, hein, on voit. Ouais. J'ai voulu rester parmi ceux qui seront demain des persécutés. Mais j'espère qu'un prêtre catholique voudra bien, si le cardinal archevêque de Paris l'y autorise, venir dire des prières à mes obsèques. Au cas où cette autorisation ne serait pas accordée, il faudrait s'adresser à un rabbin, mais sans lui cacher, et sans cacher à personne, mon adhésion, on trouve la liberté, l'adhésion morale, l'épanouissement au catholicisme, ainsi que le désir exprimé par moi, d'abord d'avoir les prières d'un prêtre catholique. Alors, phénomène vraiment magnifique où le catholicisme est profondément lié au fait aussi de choisir d'être avec les persécutés, c'est-à-dire que vouloir ne pas se convertir, c'est manifester combien il est déjà converti, parce qu'il veut rester avec ses frères juifs pour souffrir comme le Christ. Mais la question que je voudrais vous poser, Dominique, c'est est-ce qu'il y a un lien entre, et vous l'avez déjà suggéré ou entrevu dans ce que vous disiez, entre la pensée de la liberté chez Bergson et justement ce sentiment d'être proche du catholicisme, notamment à travers ce qu'il voit de la sainteté.
Oui, j'ai l'impression qu'il a entrevu cet ouvrage-là, « Les données immédiates de la conscience », soit dans les deux sources de la morale et de la religion, combien l'expérience humaine de la liberté pouvait me mettre en corrélation avec celui qui est plus intime à moi-même que je ne le suis à moi-même, pour prendre la formule de saint Augustin. Mmh. On a l'impression que si j'arrive à coïncider avec moi dans le sens le plus intime, je coïnciderai avec l'énergie qui est au cœur de la création. Parce que dans le catholicisme, enfin si je crois bien sentir, c'est que l'énergie qui est à la source de la création se trouve au cœur de la créature. Mmh. Et cette énergie divine au cœur de la créature, c'est celle à l'identification de laquelle Bergson nous convie.
La sainteté apparaîtrait pour lui comme la figure même de l'accomplissement de la liberté, de la vie liberté. Libre.
Et je pense que c'est pour ça qu'il a dans ce livre quelques formules selon laquelle peut-être on peut passer toute sa vie sans avoir été libre, et peut-être n'y a-t-il pas eu beaucoup jusqu'à maintenant de vrais actes libres. Parce que si l'acte libre se traduit par la sainteté où l'artiste arrivait à son terme, c'est vrai que la liberté de l'artiste dans la vie morale, c'est quand même relativement difficile.
Oui, c'est ça. Donc on est finalement dans une conception de la liberté qui est en même temps pour nous, on pourrait dire, un antidote à la vision, je dirais, libérale ou de la théorie économique, où la liberté est posée au départ, c'est-à-dire où là on prétend à une sorte de spontanéité mais qui est au départ, et où finalement nous sommes des individus déjà libres dès la naissance et qui optimisons nos choix, on est dans les choix rationnels, et en fait ce qui se passe c'est qu'on nous invente cette fiction d'un individu libre dès le départ pour mieux être les esclaves du marché, de la proposition des différentes marchandises devant nous, alors que là, cette liberté non seulement se fait, elle est le déploiement de ma vitalité, mais c'est justement presque toute une vie, on pourrait dire, pour qu'elle se déploie, et c'est le chemin même, je pourrais dire, l'effort même vers la sainteté.
Exactement, c'est-à-dire la liberté, alors vous avez raison, la liberté chez Bergson, elle n'est pas, elle se conquiert, je ne suis pas sûr que la manière de la conquérir soit la voie qu'il propose. Ce qu'il propose comme moyen de conquérir la liberté, c'est le détachement seul du monde, de l'espace et de la corporelle, j'allais dire. Alors que j'ai l'impression que ce n'est pas un détachement du monde de l'espace et du monde corporel, c'est une intégration de notre corporéité spatiale. Ce n'est pas un détachement de la corporéité spatiale. Sous ce point de vue-là, je pense qu'il y a encore un petit chemin, une différence quand même entre le christianisme et Bergson. C'est qu'à un moment donné, quand même, il ne s'agit pas seulement de se détacher de ce qui ne serait pas l'esprit pur, il s'agit d'intégrer ce qui est corporel à l'intérieur de quelque chose de spirituel.
À l'intérieur d'une destinée temporelle, et ce serait une assomption. Et peut-être justement que c'est ça, cela qu'essaye de faire Peggy après Bergson, justement, lorsqu'il pense plus en termes d'incarnation qu'en termes de spiritualisation, finalement.
Oui, c'est pour ça que le terme incarnation, je le vois pas très bien pour Bergson.
Oui.
Détachement, spiritualisation, oui. Intégration, pas tellement.
Oui. Merci Dominique Pigna. Il y aura toujours à lire et à relire Bergson. En tout cas, c'est un moment décisif dans la philosophie et même l'avènement, on pourrait dire, du moment le plus contemporain dans la philosophie.
Merci.
C'était Entre nous soit dit, une émission proposée par Fabrice Adjadj avec Dominique Pigna aujourd'hui, libre comme Bergson, et notre chère, silencieuse, mais splendide sous nos yeux, Claire Cabara, à la technique. Merci, à bientôt.